il y a une possibilité de se libérer du vœu qui a été fait, une procédure de libération, alors qu'évidemment, dans la parole d'Hachem, il n'y a pas de procédure de libération. Il n'y a pas une procédure qui permette de manger un plat d'huître. Tandis que si quelqu'un s'est interdit quelque chose qui en soi est permis, mais qu'il a jugé bon de s'interdire, il peut, dans certaines circonstances, annuler le vœu, donc se permettre, par exemple, la consommation de cette chose qu'il s'était interdite, mais on verra plus en détail quand on reviendra sur ce sujet. Ici, on présente d'abord les vœux, on présente aussi les serments. Oishava shvua. Une shvua, c'est un serment, c'est pas la même chose qu'un vœu, mais c'est aussi quelque chose qui engage énormément. Alors, ce qu'il faut voir tout de suite, c'est que la Torah dit dans le deuxième verset qui concerne ce sujet, elle dit que quelqu'un qui ish ki yidor neder, l'Hachem, oh ishava shvua, l'esor yisara nafsha, lo yachel dvaro. Il doit veiller à ne pas profaner sa parole. Et ici, on a tout de suite un étonnement parce que normalement, profaner, ça veut dire qu'on rend profane quelque chose qui est kadosh. Mais où est la gdusha dans la parole de celui qui a fait un éder? Donc il faudra qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas simplement de tenir sa parole, mais que effectivement, il y a un interdit de profaner sa parole et une mitzvah assez de faire tout ce à quoi on s'est astreint par le biais du serment ou du néder ou du vœu. On reviendra là-dessus aussi. Donc, je donne simplement des idées sur le sujet. Alors, les femmes peuvent faire des nédarim, des shvot comme les hommes, sauf que le fait qu'elle soit dans la maison de son père, c'est-à-dire qu'elle soit encore une mineure, ou bien qu'elle soit une femme mariée, et dans le cas où le vœu qu'elle aurait fait est un vœu qui met en cause ou qui peut déranger le fonctionnement normal du couple, alors le père, respectivement le mari, peut, dans certaines circonstances bien précises, annuler le vœu. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu qu'il convient, avant qu'il meure, il y a une dernière chose qu'il doit faire, enfin, une chose qu'il doit encore faire avant de disparaître, c'est de venger les Bnei Israël par rapport aux Midianites. Les Midianites, ce sont donc ces femmes, ces princesses qui ont été prostituées pour faire tomber les Bnei Israël sur le conseil de Bilram. Et il faut venger le clan Israël. Alors, on peut aussi remarquer que Hachem, quand il s'adresse à Moshe, il dit il faut venger les Bnei Israël de ce que leur ont fait les Midianites. Mais quand Moshe parle aux Bnei Israël, il dit qu'il faut venger Hachem. Donc on a de nouveau cette espèce de souci de l'un pour l'autre, le souci qu'a Moshe Rabbeinu, qu'ont les Bnei Israël, en fait, pour Hachem, et le souci d'Hachem pour les Bnei Israël. Ça ressemble un peu à la situation qu'on avait vue plus haut, où quand Moshe Rabbeinu a appris qu'il n'entrerait pas en Eretz Israël, alors il a demandé à Hachem de nommer quelqu'un qui allait s'occuper des Bnei Israël, qui allait les diriger, marcher devant eux, etc., s'occuper vraiment, les prendre vraiment en charge. Il a demandé à Hachem de veiller à ce qu'il y ait quelqu'un, à ce qu'il nomme quelqu'un. Et puis, si on croit le Midrash dit que quand Moshe Rabbeinu a dit cela à Hachem lui a dit, mais au lieu de me donner des conseils pour que je m'occupe bien de ce qui finalement sont mes enfants, les Bnei Israël, je ferais mieux de donner des conseils à mes enfants pour qu'ils s'occupent de moi. Pourquoi ? Parce que la paracha qui venait juste après la demande de Moshe Rabbeinu que Hachem s'occupe des Bnei Israël, c'était la paracha du Korban Tamid. C'est Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre qu'on lui donne et Korbani, Lachmi, mon pain quotidien, c'est les deux, le matin et le soir, on doit apporter un Korban Tamid, pur et à la fermeture du corps du Beth Amikdash, et c'est présenté comme Lachmi, mon pain, ma nourriture. C'est assez curieux. Hachem dit que ça, c'est sa nourriture. Et donc, comme c'est juxtaposé, nos Chacham, nos maîtres ont entendu qu'il fallait lire ensemble et que de même qu'il y a un souci que Moshe a, puisqu'il demande à Hachem de prendre les Bnei Israël en charge, alors ils ont compris qu'il y avait là un dialogue et que Hachem a dit à Moshe, mais au lieu de t'occuper de ça, tu ferais mieux de t'occuper de dire aux Bnei Israël d'avoir, d'être très sérieux et de s'occuper de moi, de me donner ma nourriture, mon korban, tamid. Donc ici, on voit de nouveau ici aussi une espèce de souci de l'un pour l'autre. Comme ici, dans une espèce de couple, le couple entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu, où chacun doit avoir le souci de l'autre. On y reviendra. Et donc, il va y avoir ce problème de la vengeance. Il faudra qu'on pourrait essayer de comprendre pourquoi tout à coup on utilise cette notion de vengeance, qui se retrouve dans d'autres psukim bien sûr, mais pourquoi la vengeance qui est quelque chose d'a priori de mauvais, qui est interdit entre les hommes, pourquoi ici on parle de vengeance? On verra. Ensuite, voilà, c'est ensuite il va y avoir la guerre, effectivement avec les Midianites, il va y avoir les problèmes de partage du butin. Et puis ensuite, puisqu'on parle de questions matérielles, alors dans le chapitre Lamed Bet, chapitre 32, la Torah nous dit que les Bnei Gad et les Bnei Rouven ont de très grands troupeaux, donc ils ont besoin de grands pâturages, et ils viennent et ils disent, eh bien nous, avoir les territoires qu'on a conquis de ce côté du Jourdain, sans passer le Jourdain donc, là les terrains qu'on a ici, c'est des terrains absolument adéquats pour nos troupeaux, c'est des terrains à pâturage. Et donc les Bnei Gad et les Bnei Rouven demandent à ne pas passer le Jourdain et à recevoir leur part dans la terre d'Israël de ce côté-ci du Jourdain. Et là, Moshe Rabbeinu l'a pris très très mal, parce que Moshe Rabbeinu a... Est-ce qu'il a vraiment pensé que les Bnei Gad et Bnei Rouven pensaient comme ça, ou bien est-ce qu'il a surréagi pour montrer qu'il y avait un problème? En tout cas, il leur a dit, vous êtes en train de suivre le modèle des explorateurs, vous êtes en train de décourager les Bnei Israël, qu'est-ce que vous pensez? Vous allez rester, vous, planqués de ce côté du Jourdain et les autres vont aller faire la guerre? D'accord, il va manquer donc, de nouveau, cette fois c'est à l'inverse, il va manquer deux des 12 tribus qui vont donc pas faire la guerre et vous serez tranquille. Alors les Bnei Gad et Bnei Rouven ont dit non, on ne pense pas faire ça comme ça, on pense simplement qu'on va construire, là le texte est un peu étrange parce que disons on va construire d'abord des abris pour nos troupeaux, des bergeries, etc. Et puis aussi des habitations pour nos enfants. Et bon, on va les construire, puis ensuite, on va se joindre au Bnei Israël, on va participer à la guerre, à la conquête et d'Eretz Israël, et nous ne reviendrons chez nous que quand toutes les tribus seront installées chacune à sa place. Chaque tribu sera chez elle, dans son territoire. À ce moment-là, nous aussi, nous reviendrons dans notre territoire. Et donc là, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a accepté avec des conditions. Sur les conditions, elles sont une condition particulière puisque il y a ce qu'on appelle un Tnaï Kafoul, c'est-à-dire qu'il y a eu une condition qui a été condition doublée, si vous voulez, au sens où il leur a dit si vous faites ça, c'est bien, et si vous ne le faites pas, alors ça va pas marcher, vous aurez pas. Donc les deux côtés sont dit, on aurait pu se contenter de dire si vous faites ça, alors vous aurez. On comprend très bien que s'ils ne le font pas, ils ne l'auront pas. Mais là, il y a ce qu'on appelle un Tnaï Kafoul, c'est-à-dire une précision extrême. Et c'est une notion qui existe de façon générale lorsqu'on doit désigner des témoins. Certaines fois, on fait très attention de désigner ces témoins avec ce qu'on appelle une double condition du type « vous êtes témoin et personne d'autre n'est témoin ». En particulier dans les désignations de témoins pour le mariage, certains font attention à cela. On n'est pas obligé, mais certains font attention à cela. Donc, voilà, cette question-là est plus ou moins réglée. Mais il reste encore un nouveau problème, c'est que on avait vu précédemment que le partage de la terre d'Israël se faisait en tenant compte des gens qui sont en tenant compte des gens qui sont sortis de Mitzrayim, et puis ensuite donc une combinaison, et donc il y a eu à un moment donné quelque part, si vous voulez, un trou dans la législation, c'est que rien n'était dit quant à l'héritage des filles. Quand quelqu'un n'a que des filles, on n'a pas prévu la notion d'héritage, et donc il n'y aurait pas de partage. Quand on fera le partage des terres pour Eretz Israël, du coup, elles n'héritant pas, leur père n'aura pas de trace, il n'y aura pas de trace de leur père dans le partage de la terre d'Israël. Et donc elles sont allées de façon parfaite, exposer le problème à Moshe Rabbeinu, à Elazar, etc. Et Moshe Rabbeinu a dit attendez, je vais consulter Hachem. Il a consulté Hachem qui a répondu que effectivement ce qu'elle demandait était tout à fait légitime. Et on a reçu la paracha de l'héritage des filles. Et du coup, les Chachamim disent que justement les filles de leur père s'appelle Sophrod, éventuellement c'est celui qui est le Mekoshe Shetsim, celui qui a voulu montrer que si on transgressait Shabbat, on était vraiment passible de mort. Donc c'est un sujet pour soi aussi, qui a été traité un peu là-bas, dans des parchiotes dont on n'a pas parlé, pour des raisons techniques ici. Et du coup, les gens de la tribu de ces filles, donc les tribus de Menaché, sont venus, ils ont dit, mais il va y avoir un problème, parce que si ces filles, elles héritent, et qu'ensuite elles se marient avec des gens qui n'appartiennent pas à notre tribu, elles vont embarquer le territoire qui est une partie du territoire de notre tribu, et il va devenir une parcelle du territoire de leur mari. Donc ça, ça nous est insupportable. Alors, on a consulté Hachem, et Hachem a dit que cette génération-là, ces filles-là, elles peuvent se marier avec qui elles veulent, mais seulement dans la tribu de Menaché, de telle sorte que l'héritage ne change pas, en quelque sorte, que certains territoires ne changent pas d'appartenance à une tribu. C'était vrai seulement dans cette génération, c'est pas vrai dans les générations ultérieures. Comment est-ce qu'on règle le problème? La Torah n'en dit rien. Ça c'est Parashat Matot. Et ensuite on passe à Parashat Mas'e. On va parler donc des tribulations, des pérégrinations des Bnei Israël, des déplacements des Bnei Israël, les 42 déplacements des Bnei Israël qui ont eu lieu entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz Israël, c'est-à-dire en gros pendant 40 ans. Mais bien qu'on ait 42 déplacements en 40 ans, ça ne veut pas du tout dire que les déplacements avaient avait lieu, enfin, c'est-à-dire que on allait camper régulièrement le même nombre de jours à chacun des endroits. Pas du tout. Il y a des endroits où on est resté des années, des endroits où on est resté que quelques jours. Tout ça, c'était simplement déterminé par la fameuse nuée qui accompagne et protège les Bnei Israël. Quand la nuée se mettait en marche, les Bnei Israël savaient qu'ils devaient se mettre en marche, mais ils ne savaient pas du tout pour combien de temps ils se mettaient en marche. Et quand la nuée s'arrêtait, ils savaient qu'ils avaient campé, ils ne savaient pas non plus pour combien de temps ils s'installaient à camper. Mais c'était comme ça. Donc, on va énumérer les différents endroits. Bien entendu, ce sont des endroits, c'est des stations géographiques, mais bien entendu, il s'agit d'une progression spirituelle aussi. D'accord ? Passer par ces différentes étapes, c'est franchir des étapes spirituelles, jusqu'à ce qu'il soit devenu apte à entrer en Eretz Israël. Donc, on nous raconte tout cela. Et ensuite, donc les Bnei Israël vont passer le Jourdain, enfin, on leur annonce qu'ils vont passer le Jourdain. Tout ça, c'est encore du vivant de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu ne va pas, hein, évidemment, il ne va pas du tout passer le Jourdain. Comme vous savez, il va monter sur une montagne, il va voir effectivement la terre, mais il ne pourra pas y entrer. Et Akadosh Baruch Hu dit ensuite aux Bnei Israël, dans le chapitre 34, on leur dit quelles seront les frontières d'Eretz Israël. Bon, il y a ensuite des versions un peu différentes sur les frontières. On décrit le cheminement de la frontière, si on peut parler comme ça, avec deux grandes orientations, deux grandes possibilités sur ce qu'était la frontière. C'est décrit longuement. Et puis ensuite, la sixième montée de cette semaine, puisqu'on va en lire deux, on lit deux parchiot, c'est-à-dire au pasouk 16-17 du chapitre 34, la Torah annonce qui vont être les maîtres du partage de la terre. Alors on sait qu'il y aura là Elazar Cohen, Yoshua Binoun, et il va y avoir un représentant de chacune des tribus. Et donc on va répartir les tribus sur la terre d'Israël. On va en amont, on n'en est pas encore là, ça va se passer sous la direction de Yoshua après la mort de Moshe Rabbeinu, mais ça a déjà été discuté du vivant de Moshe Rabbeinu. Ensuite, on va parler des villes des Levim. Alors, comme vous le savez, les Levim n'ont pas de terrain, parce qu'ils ne sont pas libres pour pouvoir cultiver les terres, puisqu'ils sont requis en permanence pour le service du Beit HaMikdash, pour le service d'Hachem. Donc, n'ayant pas le droit de faire autre chose que d'être que de servir Hachem, ils n'ont pas de terrain, mais ils ont néanmoins des villes. Avec ces villes, ont une ceinture verte, etc., ça c'est clair, mais ils n'ont pas de champs. Et on va leur donner 42 villes. Ça s'appelle les Areal Vim, les villes des Levim. Donc les Levim, semble-t-il, vont être des spécialistes d'administration de villes. Au point que, ensuite, on va donner, il va y avoir une mitzvah qui est la mitzvah bien connue. C'est la mitzvah de désigner ce qu'on appelle des villes refuges. Qui sont des villes dans lesquelles se réfugieront les gens qui auront tué par inadvertance. Dans cette ville, ils se réfugieront parce qu'il y a une procédure. Quand quelqu'un est tué par inadvertance, la Torah, elle envisage que... elle dit qu'on va devoir désigner tout seul peut-être, mais ce qu'on appelle le Goël Adam. Littéralement, ça veut dire le vengeur ou du sang. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut l'interpréter comme cela. Les gens qui ont tué un proche qui a été tué par inadvertance, ils peuvent se dire, on ne va pas rester comme ça les bras ballants, on a tué quelqu'un de chez nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Et la Torah, elle a pensé qu'il ne faut pas laisser les gens faire n'importe quoi. Et pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, alors on va on va désigner quelqu'un qui sera en charge de venger en quelque sorte la personne qui est décédée. Et on va lui dire, voilà, celui qui a tué, il peut se réfugier dans une ville refuge. Tant qu'il est dans cette ville-là, tu n'as pas le droit de lui faire quoi que ce soit. S'il en sort, tu peux le tuer. Et tu peux le tuer, peut-être tu dois le tuer même, éventuellement une discussion s'il faut ou s'il peut. Le tuer parce que, et tu ne porteras pas de responsabilité parce que c'est la vengeance de celui qui a été tué donc par inadvertance. On va faire quelque chose. Donc on voit très bien, la Torah elle dit, il faut on comprend très bien que les gens, les proches, se disent, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis d'un autre côté, celui qui a tué par inadvertance, il mérite pas de mourir. Et donc on va lui dire, eh bien tu te réfugies dans une de ces villes refuges. Alors dans cette ville refuge, il va être, comme on dit, en exil. L'exil, ça consiste essentiellement à ne pas être chez soi. Pour le reste, on va lui recréer les conditions de vie qui étaient les siennes. Comme dit l'Agmara, si celui qui a tué par inadvertance avait une yeshiva, alors on va lui organiser une yeshiva chez lui, de là-bas dans cette ville refuge, etc. Tout est à l'avenant. Et puis combien de temps est-ce qu'ils vont rester? Il va rester dans cette ville refuge. Ben, il va rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol qui était en service au moment où il a tué. Pourquoi lui, là? Pourquoi c'est quoi cette définition? C'est que d'une certaine manière, la Torah, elle considère que si le Kohen Gadol avait bien fait son travail, eh bien, sous sa juridiction, en quelque sorte, personne ne devrait mourir. Surtout pas de cette manière-là. Bien sûr, les gens vont mourir normalement. Mais personne ne devrait mourir par inadvertance. Il aurait dû prier pour protéger sa génération. On a un exemple un peu analogue. Tamar nous dit que, je crois que c'est Rabbi Joël Lévy, il avait l'habitude de recevoir régulièrement la visite d'Eliyahu Hanavi. Et à un moment donné, pendant 3 jours, Eliyahu Hanavi n'est pas venu le voir. Et quand il est revenu au bout de 3 jours, alors Joël lui a dit, pourquoi t'es pas venu? Il a dit, tu crois que je vais venir rendre visite à quelqu'un dans le voisinage duquel un lion a tué un homme? Dans le voisinage de Rabbi Yochanan Lévi, il y a un lion qui a tué un homme. Mais d'une certaine manière, Eliyahu Hanavi lui dit, bon, c'est un peu de ta faute, quoi. Si tu avais été plus tzadique, si tu avais plus prié pour les gens de ta génération ou pour les gens de ton environnement, ce ne serait pas arrivé. Il y a quelque part, quand on est grand et qu'on a donc une responsabilité, on a toujours une responsabilité, les juifs ont toujours une responsabilité les uns pour les autres, mais il y a des gens qui ont plus de responsabilités dans la mesure où ils sont justement des gens qui, de par leur Torah ou de par leur situation dans le clan d'Israël, ils sont à même ils doivent protéger. Et donc le Kohen Gadol, il n'a pas suffisamment protégé, et donc il est aussi un peu coupable dans cette affaire. Et donc quand lui mourra, on dira que voilà, la dette a été payée d'une certaine manière, l'exil de l'un plus la mort de l'autre. Bon, ça va, il peut sortir de cette ville refuge, et bien entendu, le Bohénadam n'a pas le droit de lui faire quoi que ce soit. Mais tant qu'il est dans la ville refuge, il n'a pas le droit de mettre un pied à l'extérieur. Et la Gemara dit que même si le clan Israël a besoin de lui, supposer que la personne qui a tué par inadvertance soit un grand stratège, et que les Bnei Israël ont des problèmes, ils doivent faire la guerre, ils ont besoin de ce stratège, on n'a pas la possibilité de lui donner un blanc, enfin un sauf-conduit, quoi, quelque part. On ne peut pas dire à cet homme, écoute, tu viens nous aider dans la guerre en question, bien, il ne t'arrivera rien, on va interdire au Goël Adam de te faire quoi que ce soit. S'il sort, il risque sa peau, et donc il n'a pas le droit de sortir. Ça, ce sont les villes-refuges. Alors, ces villes-refuges, il y en a 6, comme je vous ai dit. Il y en a 3 d'un côté du Jourdain, et 3 de l'autre côté du Jourdain. Moshe Rabbeinu a désigné ces 3 premières, celles qui sont du côté du Jourdain où il se trouvait. Et bien entendu, il n'a pas désigné les autres, ça se fera au temps de Yoshua. Et bien que Moshe ait désigné ces 3 villes-refuges, ces villes-refuges, tant qu'elles ne seront pas, tant qu'il n'y aura pas les 6 qui auront été désignées, alors elles n'auront pas leur pouvoir de ville-refuge. Donc ce que Moshe Rabbeinu fait, c'est quelque chose de très important, mais il fait une mitzvah qui n'est pas complète, qui ne peut pas faire dans sa totalité. Néanmoins, il l'a faite. Il a fait cette moitié de mitzvah, si vous voulez, bien que ce qu'il a fait ne pourra pas jouer son rôle tant que on n'aura pas désigné les 6 autres mitzvot. Il faut dire la vérité, c'est que ces villes-refuges, elles vont être administrées par les Levim aussi. Et d'ailleurs, les 42 villes des Levim vont jouer le rôle de villes-refuges également. Ce qui fait qu'on va avoir 48 villes-refuges. Et bon, la Gemara s'étonne quand même, 48 villes-refuges sur ce petit territoire d'Eretz Israël. C'est un maillage extrêmement serré. Et c'est quoi? Il y a tellement de gens qui vont tuer par inadvertance. Alors on sait, il fallait mettre des poteaux indicateurs pour que si quelqu'un devait fuir et aller se réfugier dans une ville refuge, il ne faut pas qu'il ait de doute sur les directions à prendre pour se retrouver dans une ville refuge. Et donc, effectivement, il fallait qu'il puisse en trouver une très proche de chez lui. Effectivement. Donc, ça peut paraître un peu exagéré, mais il y avait 48 villes qui jouaient le rôle de villes-refuges. Ensuite, bon, alors, je vous ai déjà raconté l'histoire de des... Ah non, j'ai pas terminé. Les gens de la... Si, je crois que j'ai terminé. Les gens de la tribu de Menaché, qui était la tribu des filles de Sophrod, ils vont dire, mais il y a un problème avec notre héritage. Et donc, je vous ai dit, les filles de Sophrod, elles pourront se marier avec qui elles veulent, mais uniquement dans leur tribu. Et cette restriction, elle n'existe que dans cette génération. Voilà, on a passé rapidement, très rapidement en revue les sujets de Matot Massé. On va revenir sur différents sujets. Alors, il y a d'abord Matot. Et avec cette première question, qui est une question du Rashbam, le petit-fils de Rashi. D'accord ? Il s'est posé la question, comment se fait-il que on trouve, d'abord on parle au Rashi à Matot, mais c'est marqué Zé Adavar Asher Siva Hashem. Ceci est la parole qu'Hashem a ordonnée. Certains traduisent Davar, comme vous savez, ça se traduit ou bien par parole ou bien par chose. En tout cas, c'est la chose, c'est la parole qu'Hashem a ordonnée. Et le Rashbam dit, mais cette phrase, une phrase comme celle-là, on ne l'entend pas dans tout le reste de la Torah. Donc pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'ici il y a une intervention particulière d'Hachem sur ce sujet-là? C'était la question du Rajbam. Et je rappelle la question, pourquoi est-ce que on parle ici au Rashi Hamatot et pas directement au Bnei Israël? Alors, à la deuxième question, à la question de Rashi Hamatot, Rashi. Regardez Rashi, Rashi dit Chalak kal kavod lamsim. Moshe Rabbeinu a donné du kavod au prince, au chef de tribu. Qu'est-ce qu'il leur a donné comme kavod? Le lamdam trila. Et achar kach le kol bnei Israël. Donc, Rashi dit que ce qui est écrit ici, c'est pas que Moshe Rabbeinu n'a parlé qu'au chef de tribu, mais il a parlé au chef de tribu, et puis ensuite à tout le monde. Alors du coup, Rashi ramène que Minaïd Sheaf Sharadibrot Kar, en vérité, ça a toujours été comme ça. Chaque fois que Moshe Rabbeinu recevait un enseignement qu'il devait transmettre au Bnei Israël, ça se passait toujours de la même manière. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Moshe Rabbeinu reçoit d'Hachem. Ensuite, il convoque Aaron. Et il dit à Aaron ce qu'Hachem lui a dit. Aaron l'entend et il vient s'asseoir à côté de Moshe Rabbeinu. On fait entrer les fils d'Aaron. Et Moshe Rabbeinu leur enseigne ce qu'Hachem lui a dit. Ils écoutent. Puis ensuite, ils viennent s'asseoir à côté de leur père. Ensuite, on fait entrer les Rashi Hamatot, les chefs des tribus. Moshe Rabbeinu leur enseigne, ils viennent s'asseoir, etc. Ce qui fait que Aaron, puis ses fils, et les Rashi Hamatot, ce sont des gens qui vont entendre un maximum de fois l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Donc, ils vont très bien connaître l'enseignement qu'Hachem a donné à Moshe Rabbeinu à transmettre au Bnei Israël. Mais puisque c'est toujours comme ça, pourquoi est-ce que la Torah ici, elle nous dit que Moshe a parlé au Rashi Hamatot? C'est toujours comme ça. Il a toujours parlé d'abord au Rashi Hamatot par rapport au reste du clan d'Israël. C'est vrai qu'il y avait Aaron, ou bien Elazar, ou bien les fils d'Aaron d'abord, mais bon, ça c'est spécial, c'est les Kohanim. Mais ensuite, par rapport au Bnei Israël, bien entendu, Moshe Rabbeinu a parlé au Rashi Hamatot d'abord. Donc, il n'y a là rien de très extraordinaire. Talmud Lomar, dit Rashi, Yashuvo Elav, Aaron, Yocholam Sim, Baeda, Baedaber Moshe Elehem, Bacharkar, Nikshu, Kol Bene Israël, etc. Les Bene Israël viennent après. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Mara, l'Omrakan? Si cette règle est une règle qui est permanente, qui était toujours comme ça que ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'on nous l'enseigne ici, à cet endroit-là? Alors Rashi dit, ça vient enseigner la chose suivante. Chez Afarat Nedarim Beyachid Mumche, que je vous ai dit, quand quelqu'un a fait un vœu, un éder, et que des circonstances poussent à ce qu'on annule ce vœu, on verra pourquoi, eh bien, on peut demander à un yachid, à un rab, mumché, un expert, d'écouter les arguments de celui qui a fait le vœu, éventuellement d'annuler le vœu. Et ve'im ein yachid mumché. Et si on n'a pas, il n'y a personne qui est Yachid Mumché, qui est quelqu'un capable à lui tout seul de suffisamment bien connaître les choses, alors Shlosha Ediotot, trois personnes normales, simples, peuvent faire le même travail. Alors on peut dire que peut-être Yachol Shelo Amar Moshe Parashazu El Alansim Bilvad. Peut-être que cette paracha, elle a été dit en particulier au Nessim, et pas, c'est pas comme toutes les autres parachiotes. Parce que Neymar Khan Zéa Davar, Neymar Beshrut El Khoutz, on a interdit de faire la Shrita des Korbanot en dehors de l'enceinte dans laquelle on a le droit de la faire. Là-bas aussi, c'est marqué Zéa Davar. Et donc, peut-être, ça vient dire ici qu'il y a là quelque chose de tout à fait particulier. Et on va dire, Maléanan, Nemra, l'Aaron, l'Ubana, Vulchol, Bene Israël, Shenemer, Daber, Bene Aaron, etc. Avzu, Nemra, le Kulan. Cette parcha, elle a aussi été dite à tout le monde. Donc, il y a un autre verset. Et Zéa Davar, Moshe, Nitnave, Beko, Amar Hashem, Kachat, Sot, Alayla, les autres prophètes, Nitnavu, Beko, Amar Hashem. Donc, Moshe, Falem, Moshe, Chez Nitnave, Belachon, Zéa Davar. Et Moshe est venu là, lui, là, quelque chose de particulier, c'est que lui, il prophétise comme les autres, mais aussi sous la forme Zéa Davar. Zéa Davar, c'est quelque chose qu'on peut montrer. Voilà la parole en question. Davar Acher, Zéa Davar, Miyutu, ça vient exclure quelque chose pour te dire, Shachacham Belashon Atara, Ubal Belashon Afara, Kilshon Akatuv Kan, Vim, Khalfu, en mutar ve'en mufar. Et si on fait le contraire, alors les vœux ne sont pas annulés. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Étant donné que c'est un yachid mumre, un individu, un maître, expert, qui peut annuler un vœu, alors a priori, ben, les Rashi Amatot sont des candidats experts. Est-ce qu'eux ont entendu, ou bien spécialement, cette paracha, ou bien en tout cas très tôt dans la liste de ceux, enfin, ils sont venus très vite entendu la Torah qui a été enseignée par Moshe Rabbeinu, donc ils l'ont beaucoup répété. Et donc, sont eux, c'est vraisemblablement, c'est eux qui seront les mumrim. Ceci mis à part, il y a plusieurs drachot qui sont donnés, on ne va pas entrer maintenant dans le détail, je vais juste essayer d'expliquer ce que c'est qu'un éder. Alors, c'est un vœu. Alors, c'est quoi exactement? Un éder, c'est un engagement. C'est l'engagement qui est pris par quelqu'un qui, par exemple, c'est un exemple, disons qu'une personne dise qu'elle s'interdit de manger des pommes vertes. D'accord ? Voilà, elle fait un éder qu'elle ne mangera pas, elle s'interdit de manger des pommes vertes. Bon, c'est très bien, on a le droit. Alors, elle peut se l'interdire pour un temps limité ou pour sans limite de temps, etc. Et puis, voilà qu'un jour, pour des raisons techniques ou autres, pour des raisons de santé ou autres, pour faire plaisir à quelqu'un, etc., la personne, elle dit, il faut absolument que je mange des pommes vertes. Alors, elle pourrait se dire, mais finalement, c'est moi qui me suis interdit les pommes vertes, et comme je me les suis interdites, je me les permets. Je annule ce que je m'étais imposé. Je me permets ce que je m'étais interdit. Évidemment, ça ne marche pas. Au contraire, la Torah, elle va en fait demander des comptes à quelqu'un sur les vœux qu'il a faits, donc sur ces fameuses pommes vertes. S'il venait à les manger, la Torah lui demanderait des comptes, comme de la même manière qu'elle demande des comptes à quelqu'un qui voudrait manger, je ne sais pas, une côte de porc. Donc c'est extrêmement étonnant, en fait, que la parole humaine, si vous voulez, ici, elle est mise sur le même plan que la parole divine. La Torah va lui en vouloir autant qu'elle en voudrait à celui qui aurait mangé une nourriture interdite, par exemple. Maintenant, il est dit dans le Passouk, que celui qui a fait un éder, il doit faire attention à ne pas profaner sa parole. Et comme on a dit, profaner, ça implique qu'il y a de la doucha. On ne peut pas profaner quelque chose qui est profane déjà. D'où elle vient cette kedusha? Alors elle vient de la raison suivante. C'est pas tellement évident de s'interdire quelque chose. Que ça veut dire que tu vas t'interdire? Il faut prendre un modèle. Il faut être matpis, comme on dit, mais bon, ça c'est la technique. Alors, il faut prendre un modèle. Alors, le modèle, c'est le suivant. Si quelqu'un décide de donner un korban, d'approcher un korban, sans obligation, mais il décide d'approcher un korban. Et donc, une fois qu'il aura désigné la bête qui va servir de korban, cette bête, elle lui devient complètement interdite. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas la faire travailler, il ne pourra pas la manger, etc. Cet objet-là, il devient kadosh, il a une kedusha, c'est-à-dire qu'il est séparé de lui. La kedusha, c'est toujours la séparation. Cette bête est séparée, elle n'est plus dans son domaine du tout. Alors, la notion de Neder, on peut l'entendre de la manière suivante. Le personne dont j'ai parlé, là, qui veut s'interdire de consommer les pommes vertes, comment est-ce qu'il va le dire? Il va dire, ces pommes vertes, pour moi, elles sont comme la viande d'un corban. D'accord? Ça veut dire, c'est comme s'il transférait dans sa tête l'interdit qui existe pour lui sur la viande d'un corban, il prend cet interdit-là et il le transfère en quelque sorte, enfin, il l'applique à ces fameuses pommes vertes. Et donc c'est pour ça que ça a une dimension de kedusha. Quelque part, il s'interdit avec un modèle qui est la kedusha. C'est-à-dire, cette chose-là lui est désormais séparée. Il n'y a plus accès à ces pommes vertes pour les manger, disons. Il ne s'est pas interdit de les toucher, mais interdit de les manger. Donc, par rapport à ça, elles sont complètement séparées de lui, comme la viande d'un corban lui est interdite. Et donc, cette parole-là, elle a, bon, c'est pas vraiment de la kedusha, mais elle a mis quelque chose qui ressemble à de la kedusha, et c'est pour ça qu'on prend cette image de profaner la parole. La parole qui était synonyme de mettre de la kedusha, donc elle véhiculait, si on voulait, de la kedusha, enfin, ou comme modèle, en fait, en tout cas, cette parole-là, elle est profanée. Et donc, il y a deux choses. D'une part, la Torah dit, tu feras bien attention de ne pas profaner ta parole. C'est ce qu'on appelle un lotasé. Ne fais pas, ne profane pas. Et il y a aussi une mitzvah asé, qui est que chol ha'yoseh mipiv ya'aseh. Tout ce qui va sortir de sa bouche, tout ce qui est sorti de sa bouche, pardon, il faut qu'il le fasse. Il s'est engagé à ne pas les manger. Alors, il doit ne pas les manger, mais il soit positif de ne pas les manger. Ça, c'est pour un neder. On parle aussi d'une shvoa. Une shvoa, c'est un serment. Alors, je vais donner un exemple. Il y a beaucoup de sortes de shvot. Je vais vous donner un exemple de shvoa qui est assez intéressant en soi. Imaginez que A dit à B, tu me dois 100 euros. Et B lui dit, non, je te dois pas 100, je te dois 50. La Torah, elle dit que ils vont aller au tribunal et l'un va dire, tu me dois 100, l'autre va répondre 50. Alors la Torah dit, celui qui a dit 50, Il doit devoir jurer qu'il ne... En d'autres, c'est pas exactement la même formule, mais en d'autres termes, on veut qu'il jure qu'il ne lui doit pas plus que 50. Donc, les 50 que l'autre lui réclame, qu'il ne les lui doit pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on va le faire jurer? Parce que la Torah, elle a décidé la chose suivante. Elle a décidé que le bonhomme en face, là, celui qui ne reconnaît pas la dette, la Torah, elle pense qu'en réalité, il voudrait nier complètement la dette. Mais il se trouve que quand quelqu'un emprunte de l'argent, bon, il y a l'argent qu'il a reçu et qui va devoir rendre, mais ayant emprunté de l'argent, il y a un rapport humain qui s'est installé. C'est-à-dire, celui qui a emprunté cet argent, il est d'une certaine manière, bon, il est ce qu'on appelle débiteur, et donc il est en dette. Et la Torah, elle considère que vraisemblablement, il n'ose pas nier sa condition de débiteur. Il voudrait bien nier la dette, mais il n'ose pas nier. L'autre, finalement, il lui a rendu service, il lui a prêté l'argent, etc. Il a du mal à nier sa condition de débiteur. Alors il se dit, ok, je nie pas ma condition de débiteur puisque je reconnais que je lui dois 50. Pardon. J'ai dit 50, mais ça peut être 25 ou n'importe, c'est pas du tout la moitié, obligatoirement. Donc, je reconnais quelque chose, et donc, voilà, je me suis acquitté de ma reconnaissance de débiteur. Et pour le reste, si un jour j'ai de l'argent, je lui rendrai, ou je sais pas quoi. Alors, la Torah a dit, puisque c'est ça son raisonnement, alors, je vais l'obliger à jurer qu'il ne doit pas les autres. Et donc, il va jurer. Alors maintenant, pourquoi on le croit? Il a dit, je dois 50, et on ne croit pas sur... puisqu'on, d'une certaine manière, la Torah ne le croit pas. Alors pourquoi on va le croire quand il va jurer? Qu'est-ce qu'il a fait de plus quand il jure? Alors, jurer, c'est donner du poids à sa parole. C'est-à-dire, quand il dit « je ne le dois pas, je dois seulement 50 et pas 100 », bon, voilà, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, pour qu'on le croit et qu'il soit quitte, qu'il n'ait pas besoin de payer plus que les 50 qu'il reconnaît, il pourrait le faire qu'il jure qu'il ne doit pas les 100. Pourquoi? Parce qu'il a juré, ça irait mieux. Pourquoi je le croirais mieux? Parce qu'en réalité, jurer, c'est prendre en quelque sorte Hachem à témoin. Un serment dans la Torah, c'est toujours un serment qui mentionne le Shem Hachem, qui mentionne le nom divin. Et donc, quand quelqu'un va jurer faux, il transgresse l'interdit qu'il y a dans un Seret Dibrot. Utiliser le Shem Hachem en vain pour des choses fausses. Donc lui, il va donner du poids à sa parole en disant, je prends Hachem à témoin en quelque sorte, que ce que je dis est vrai. Je le dis devant Hachem. Alors on a des degrés en quelque sorte pour donner un peu plus de poids. Par exemple, on peut faire jurer quelqu'un en tenant un Sefer Torah. Donc c'est-à-dire, je prends Hachem à témoin, je tiens un Sefer Torah, pour bien montrer que ce que je dis est vrai. Et n'importe quel objet de mitzvah peut servir pour donner du poids à ce qui est dit là. C'est ça un serment. Alors là, il est clair que si quelqu'un fait un serment et que c'est faux, ou qu'il s'y tient pas, et bien sûr qu'il a profané sa parole, là, puisqu'il a profané le nom d'Hachem. Là, c'est presque plus facile à comprendre pourquoi il y a là profanation. Bon. Alors ensuite, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est que il y a un Gemara dans Masechet Chagiga qui dit que c'est vrai, on a Rashi l'a dit en passant, etc. On peut annuler un vœu. Comment est-ce qu'on annule un vœu? Eh bien, celui qui a fait le vœu de ne pas manger des pommes vertes, il va aller voir l'expert, et il va dire, voilà, j'ai fait ce vœu-là, mais quand j'ai fait ce vœu, j'ai pas pensé que peut-être qu'on allait me demander de manger des pommes vertes pour ma santé, ou pour, je sais pas, pour faire plaisir à quelqu'un, c'est une condition sine qua non pour obtenir telle ou telle chose, je sais pas, ou bien c'est les pommes vertes de mon futur beau-père, et si je lui mange pas ces pommes vertes, il me donnera pas sa fille en mariage. Alors, donc je suis obligé, il faut bien que je mange ces pommes vertes, je veux la fille en mariage. Alors, éventuellement, il va exposer tout ça, et l'expert pourra dire, c'est vrai, on peut dire que tu n'as pas pensé à ça, et donc il va lui dire moutard là. Moutard, ça veut dire, tu peux manger les pommes vertes. Le vœu est permis. Ça s'appelle Atarat Nedarim. On a été matir le vœu. On a permis le vœu. Il y a une autre situation. Et c'est une situation qu'on va rencontrer dans les vœux qui sont faits par les femmes. Si par exemple une jeune fille mineure qui vit dans la maison de son père, qui est donc soumise juridiquement à son père, elle fait un vœu. Alors la Torah, elle a prévu que si le père, le jour où il entend parler de ce neder, de ce vœu, ce n'est pas obligatoirement le jour où elle l'a fait, peut-être elle a fait le vœu et lui il l'a pas entendu, mais quand il l'apprend, le jour même, il a une possibilité d'annuler ce vœu. Lui, son annulation, c'est lui-même qui annule. Il dit, j'annule ce vœu. Et ça s'appelle Afarat Nedarim. Pas Atarat Nedarim, mais Afarat Nedarim. Ça, il va éliminer le vœu depuis le début, en quelque sorte. Il va arracher le vœu qu'elle a fait. Bien sûr que, par ailleurs, une femme pourra elle aussi aller chez un racham et expliquer qu'elle regrette le vœu qu'elle a fait et qu'elle voudrait qu'on lui permette de, elle aussi, s'il avait intégré des pommes vertes, de manger des pommes vertes. Alors aussi on verra, le racham il évaluera est-ce qu'elle pensait qu'elle en mangerait jamais, même dans son cas, etc. Et puis maintenant, elle change d'avis, et peut-être que là, on ne pourra pas dire que le vœu, qu'on va arracher le vœu depuis le début, parce que c'est pas possible. Donc, il n'y aura pas Afarat Nedarim. Mais si elle va chez un Chacham, le Chacham, il sera matir le Neder, même si c'est une femme. Parce qu'on va matir le Neder, ça veut dire à partir de maintenant, le Neder n'a plus cours. Les obligations s'arrêtent là. Jusqu'alors, tu avais des obligations, maintenant tu ne l'as pas. Et là, alors. Maintenant, dans cette histoire du vœu qui est annulé par le père le jour où il l'a entendu, ou par le mari, si jamais il s'agit d'un vœu qui va compliquer la vie du couple, et là il a seulement un jour. Si ce jour-là il l'a laissé passer, il ne peut plus rien faire, lui. On aura toujours la ressource d'aller chez un racham qui va être matir, mais lui il ne pourra rien faire. Le privilège qu'il a, en tant que père ou en tant que mari, en l'occurrence, ce privilège-là, il le perd. Il le perd si il ne réagit pas le jour où il entend parler de ce vœu. Il entend que sa fille ou sa femme a fait ce vœu-là. Et donc, voilà, ça c'est un farat nedari. Alors, il y a une chose très intéressante. Imaginez que la femme, la fille, elle a fait un vœu. Et elle était dans une pièce et le père était, dans une mezzanine au-dessus. Et il a entendu le vœu et il a annulé le vœu. Il a dit, je suis méfaire le vœu, j'annule le vœu. Mais la fille, elle ne l'a pas entendu, elle ne sait pas que son père a annulé le vœu. Et donc elle pense qu'elle a toujours l'obligation de respecter son vœu. Mais supposez que, pour une raison ou une autre, elle transgresse sa parole. C'est-à-dire qu'elle veut manger quand même ses pommes vertes. Elle va manger sa pomme verte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a transgressé le vœu qu'elle a fait? Non, puisque le père avait annulé ce vœu. Ce vœu n'existe plus. Donc elle n'a pas transgressé. Alors néanmoins, il y a dans le pasouk Vav, c'est marqué à la fin, au milieu, c'est marqué si le père a effectivement annulé le vœu, alors il est annulé. Vachem islach la. Mais Hachem lui pardonnera. Enfin, Hachem lui pardonnera parce que le père avait annulé le vœu. De quoi on parle ici? On parle justement de ce que je vous ai décrit. La fille en question, elle a mangé ses pommes vertes, bien qu'elle se soit interdite de les manger. Mais elle n'a pas vraiment pensé parce que son père avait annulé. Alors pourquoi c'est marqué qu'Hachem va lui pardonner? Ça veut dire que dans cette situation-là, il y a quand même une trace de faute, quoi, quand même. Parce qu'elle ne savait pas, elle, que c'était interdit, que c'était permis. Elle a fait un travail intérieur pour transgresser. Et dès lors que on parle de ça, de quelqu'un qui transgresse quelque chose, il fait un travail de transgression, mais en réalité, il ne transgresse pas parce que il n'était pas vraiment, c'était pas vraiment interdit, mais lui ne savait pas. Alors, c'est bien clair que vous pensez toutes à l'histoire de David et Bathsheba. C'est bien ce qui s'est passé avec David Ameler. David Ameler, il a pris une femme mariée. C'est, si quelqu'un a fait une faute, c'est lui, hein, c'est elle, qu'est-ce qu'elle peut faire face au roi? Non. Là, on comprend très bien que, elle ne pouvait pas faire autre chose que de céder, c'était le roi. Mais lui, il a fait une faute, il a pris une femme mariée. C'est un adultère en bonne et due forme. Sauf que c'en est pas un, pour la raison suivante. Dans la Torah, comme vous le savez probablement, quand une femme se marie, d'une certaine manière, il y a aliénation de sa liberté. Elle accepte de ne se marier avec personne d'autre qu'avec son mari. Et être déliée de cet engagement-là, ça n'est possible que de deux manières, ou bien par la mort du mari, ou bien par un acte de divorce, par un guet. Et donc si on n'a ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire on n'a pas de témoignage que le mari est mort, et il n'y a pas eu remise de guet, la femme elle est coincée, elle est mariée, même si elle ne sait pas où est son mari, même si... Alors, il y a eu des situations tout à fait tragiques pendant la guerre, quoi. Des femmes se sont retrouvées, elles ne savaient pas ce qui était advenu de leur mari. Est-ce que leur mari avait été tué à la guerre, au camp de concentration, etc. Et donc, c'est tout un problème qu'on appelle le problème des agunot. Et les rachamim ont beaucoup travaillé pour arriver à permettre à ces femmes de se remarier. Il y a eu aussi une fois un sous-marin israélien qui s'est perdu corps et bien. Et on ne savait pas du tout s'il avait explosé ou si c'était les Russes qui avait fait un bas sur ce, si je me rappelle bien, c'est Rav Avadia Yosef qui a beaucoup travaillé pour permettre aux femmes de ces marins de se remarier, parce qu'il n'y avait pas eu de guet et on n'avait pas la certitude qu'ils étaient morts. Je suppose qu'on a dû obtenir des services secrets ou quelque chose comme ça, des assurances que le sous-marin avait explosé, etc., qu'il n'avait pas été fait prisonnier par les Russes. Et donc à ce moment-là, les gens se considéraient comme morts. Mais il y a eu des cas tragiques, effectivement, après la guerre, où des femmes se sont... Il y a aussi des pièces de théâtre qui ont été... des romans qui ont été écrits avec des maris qui reviennent, alors qu'on était sûr qu'ils étaient morts et que leurs femmes se sont remariées. Il y a un célèbre épisode que j'ai déjà raconté plusieurs fois avec Moshe Feinstein, justement. Une laguna. Pour éviter ça, dans les guerres que faisaient les soldats de David, puis ensuite des rois d'Israël par la suite, quand un soldat partait en guerre, il écrivait un guet à sa femme. Il donnait à sa femme un guet. Et il lui donnait ce guet en disant, voilà, si je ne suis pas de retour dans 6 mois, dans 1 an, dans, on peut dire le temps qu'on veut, tu es divorcé, et tu es divorcé depuis aujourd'hui. Aujourd'hui où je te donne le guet. Parce qu'on ne peut pas dire... tu es divorcé depuis le jour de ma mort, parce que quelqu'un qui est mort, il ne peut pas te donner un guet. Donc il faut dire que le guet, il sera rétroactif. Si la personne n'est pas revenue au bout de 6 mois, par exemple, eh bien, depuis le moment où l'homme a donné l'acte de divorce à cette femme est réputée divorcée. Donc c'est ce qui s'est passé avec le mari de Bathsheba, Uri. Il est parti en guerre, donc il a donné à son épouse un guet sous condition, et il n'est jamais revenu de la guerre. Et donc, rétroactivement, Bathsheba était divorcée. Et quand David Amer l'a prise, elle était déjà divorcée, puisqu'elle était divorcée depuis le moment où, rétroactivement, donc depuis le moment où son mari est parti à la guerre. Mais David Amer, qui savait pertinemment que quand il l'a prise, il ne savait pas qu'elle était divorcée. Alors il a fait toute sa vie tchouva sur pas une faute qu'il a commise, mais on pourrait dire le travail intérieur pour faire une faute. Et donc il a fait tchouva parce que le travail intérieur est le même. Et c'est ça qui est écrit ici dans la Torah, Hashem Islachla. Elle a fait le travail pour transgresser, même si de facto elle n'a pas transgressé, parce que effectivement il n'y avait pas à transgresser, puisque son père, par exemple, avait annulé le vœu. Donc vous voyez, on a toutes sortes de situations. Alors, effectivement, pourquoi il faut faire des vœux? A priori, c'est pas une bonne chose. Pas une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de chances qu'on n'arrive pas à tenir ses vœux, etc. Mais il y a des vœux d'un genre particulier, par exemple, devenir nazir, c'est une forme de vœu. Et là aussi, justement, il y a une grande discussion pour savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. C'est pas bien, a priori, de devenir nazir. Bon, mais si ça a marché, si on a pu tenir toutes les conditions, alors il est appelé les sadiques. Mais... il a péroté aussi parce qu'il n'aurait pas dû faire ça. C'est pas la bonne chose. Bon. Voilà, donc ça c'est le sujet les vœux. Enfin, c'est quelques éléments sur le sujet les vœux. Ensuite, il y a la vengeance. Alors, je voudrais juste parler de la chose suivante par rapport à la vengeance. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de venger les Bnei Israël, ou que ensuite Moshe dise que c'est Hachem qu'il faut venger. C'est quoi la en quoi est-ce que c'est une grande chose? Parce que finalement, C'est ce qui a été dit à Moshe Rabbeinu. Et a priori, c'est une faveur qu'Hachem lui a faite avant qu'il meure. Dis encore ça, je te donne la possibilité de faire ça avant que tu meures. A priori, c'est une bonne chose qui lui est proposée. Mais en quoi est-ce que c'est une bonne chose? Alors on peut essayer de l'entendre de la manière suivante. Nous savons tous que le mal, finalement le mal ne triomphera pas. Et donc quand quelqu'un est victime d'une injustice, par exemple, bon, il sait, voilà, on m'a fait une injustice, et un jour, ce sera réparé. Celui qui a fait cette injustice-là, un jour, il va payer. Mais ce jour-là, je ne le verrai pas obligatoirement. Alors, ce qui est proposé, ce qui est dit à Moshe Rabbeinu, c'est « Je te donne le privilège de voir que Midian va payer. » Midian, qui a quand même causé ici 24 000 morts, d'accord, il y a la suite de ces histoires-là, il y a eu 24 000 morts, et il y en aurait eu bien plus si Pinchas n'était pas intervenu. Tout ça, c'est Midian. Alors, je fais une parenthèse. Pourquoi est-ce qu'on dit Midian et pas Moab? Puisque finalement, des princesses de Moab, il y en avait aussi. Alors, vous connaissez la réponse, probablement. C'est que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas détruire Moab, parce que de Moab devait encore sortir, enfin, doit encore sortir Ruth, qui est l'ancêtre de David, l'ancêtre du Mashiach. Et donc, il faut que Moab survive pour produire Ruth. Et c'est parce qu'il doit produire Ruth que Moab ne meurt pas, en tout cas à ce moment-là. Mais Midian, qui n'avait rien de... qui s'est mêlé de choses qui ne le regardaient même pas, il n'était même pas en danger, il n'était pas concerné, mais par haine des Israël, ils ont prostitué leur fille, y compris la princesse principale, cette Cosby. Ici, ceux-là, effectivement, ils vont payer. Et ils ont payé, et Moshe Rabbeinu est invité à voir la vengeance. Tu vas voir, tu vas participer à cette vengeance, ça veut dire tu vas voir de tes propres yeux que Midian va payer. C'est un privilège d'avoir la chance de voir. C'est-à-dire que, bien sûr que Moshe était Ma'amin, Moshe Rabbeinu savait très bien que Midian allait payer un jour. Hachem lui a fait une fleur, tu vas le voir de tes propres yeux. Ça, c'est ce que je voulais dire sur la vengeance. C'est un sujet pour soi, mais c'est marqué dans la Shirak, et le Kamot Hachem, etc. On voit très bien qu'il y a un problème avec la vengeance. Quand c'est la vengeance d'Hachem, quand Hachem qui prescrit, alors la vengeance est une bonne chose. Peut-être pour les raisons que je viens de vous exposer, mais bien d'autres raisons aussi. Le sujet suivant, c'est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps et auquel je ne sais pas vraiment bien répondre. C'est ce fameux sujet des Négades et des Néroven. Mon problème, c'est le suivant. Je sais, on peut donner réponse, mais le problème, c'est le suivant. La terre d'Israël, c'est la terre sur laquelle le clan Israël peut s'épanouir complètement. Puisqu'on a gardé une structure tribale, on va partager cette terre entre les tribus et on va donner une part de cette terre à une tribu particulière, parce que sur cette part-là, cette tribu peut s'épanouir. Et à une autre tribu, on va lui donner une autre part, la part sur laquelle elle peut s'épanouir. Donc voilà, quand on aura partagé Eretz Israël entre les 12 tribus, chaque tribu sera sur le lopin de terre, sur la partie de la terre sur laquelle elle peut s'épanouir au maximum. Ça, je comprends très bien. C'était ça le projet divin. arrivent les Bnei Gad et les Bnei Rouven et ils disent, bon, pour des questions purement matérielles, il est évident que s'ils avaient franchi le Jourdain avec tout le monde et qu'on leur ait donné un territoire, Hachem se serait déjà bien débrouillé pour que leur troupeau soit ait à manger sur leur terre, même si les terres n'étaient pas a priori des terres de pâturage, mais on n'était pas sur la terre d'Israël pour vivre exactement comme les Goïm. C'est la terre qu'Hachem nous donne, c'est la terre sur laquelle on nous dit que Hachem regarde, observe cette terre et, en permanence. Il a un œil sur tout ce qui se passe sur cette terre-là. Donc bien entendu qu'ils auraient eu de quoi donner à manger à leur troupeau. Ce que je ne comprends pas, c'est pas tellement qu'eux les demandaient. C'est qu'on a cédé. Parce que, finalement, si c'est comme ça, on aura donc partagé la terre d'Israël, non pas en 12, mais en 10. Et si on l'a partagé en 10, ça veut dire qu'aucune tribu n'est sur la terre qui lui convient exactement. Parce qu'on l'a partagé différemment. À part ça, considérer une partie de l'autre côté du Jourdain comme étant un Eretz Israël aussi, c'est déjà un problème. Et puis surtout, et ça va être confirmé par l'histoire, ces deux tribus-là, elles sont très faciles à attaquer. Elles sont d'une certaine manière isolées du reste du clan Israël par le Jourdain. Et donc, c'est vrai que ce sont les deux tribus qui vont être exilées en premier. Et d'autre part, parce que ces tribus-là sont de l'autre côté du Jourdain, il est évident qu'on a construit des tas de ponts et des tas de routes qui relient leur territoire au territoire de l'Israël, ou qui passent par-dessus le Jourdain. Donc ça veut dire que les ennemis qui ont fait la guerre et qui ont vaincu les Bnei Gad et les Bnei Menaché, ils ont un boulevard devant eux pour rentrer en Eretz Israël, en cas de guerre. Et tout ça, on a accepté parce que les Bnei Gad et les Bnei Rouven ont des troupeaux et qu'ils ont un souci. On voit très bien que c'est des gens qui ont un souci particulier, parce que j'ai pas mis l'accent sur les deux côtés. Mais eux, quand ils disent ce qu'ils vont faire avant d'aller faire la guerre, ils disent on va d'abord installer nos troupeaux, puis ensuite nos enfants et nos femmes. Quand Moshe Rabbeinu reprend la chose, il leur dit non, vous allez d'abord installer vos enfants et vos femmes, et ensuite vos troupeaux. Donc ça veut dire que dans la tête de ces Bnei Gad et Bnei Rouven, les troupeaux, ça passe avant leurs enfants et leurs épouses. On a presque honte de lire un texte comme celui-là. Alors bien entendu, probablement que Akadosh Baruch Hu a redistribué les cartes et que finalement les dix tribus sont à la place où elles devraient être. Bon, d'un autre côté, on peut peut-être dire que c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu l'exil, il y a eu le schisme et puis ensuite l'exil. Parce que finalement, chaque tribu ne s'est pas occupée du tout du rôle qu'elle allait jouer dans le clan d'Israël. Finalement, ce que Moshe Rabbeinu leur a dit, si Moshe Rabbeinu les a suspectés d'être des continuateurs de l'œuvre de démoralisation des explorateurs, c'est pas pour rien, même si ensuite ils ont dit, mais non, nous, on ne sait pas du tout si Moshe avait percé, les avait percés à jour, et donc ils ont compris que c'était gros comme une montagne, et que ça, ils ne l'obtiendraient jamais s'ils ne s'engageaient pas différemment. Et peut-être qu'ils ont seulement changé d'avis parce que Moshe Rabbeinu leur a dit ce qu'il leur a dit. Je ne sais pas. Est-ce qu'eux, vraiment, ils pensaient qu'ils allaient installer puis ensuite venir faire la guerre avec les autres, ou ils ont pensé, non, mais nous, on est bien là. Je ne sais pas. Tout ça, je ne sais pas. Ça fait beaucoup de questions. Je trouve qu'on ne trouve pas son compte dans cette démarche, J'ai du mal à comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu a finalement accepté, pourquoi Hachem a finalement accepté. Ça veut dire que le clan Israël, il peut peut-être s'engager dès le départ dans une voie de garage, en fait. C'était déjà une mauvaise voie, peut-être. Peut-être que j'ai tort, et peut-être que rentrer en Eretz Israël, ça voulait tout à coup dire que les troupeaux, les pâturages, la peur, devenaient extrêmement importants. Au point que... Alors ça, je ne sais pas. Et ça, c'est une question que je me pose, et j'ai encore pas trouvé de réponse complètement satisfaisante. La réponse est probablement dans ce que je vous ai dit à peu près. Moi, j'aimerais bien la trouver dans un Rishon ou dans une autorité plus sérieuse. Bien, dans les Massaot, c'est-à-dire dans les tribulations des Bnei Israël, dans les différents campements, etc., bien entendu, il s'agit d'adresses géographiques, si vous voulez, les endroits où ils ont campé. Et bien entendu, il s'agit d'une progression spirituelle. D'accord ? Les Bnei Israël doivent passer par toutes sortes d'étapes, régler toutes sortes de problèmes qui se règlent à ces endroits-là, là où ils ont campé, régler ces problèmes pour aller de l'avant, trouver d'autres problèmes à régler, etc. Jusqu'à ce qu'ils aient réglé suffisamment de problèmes pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Alors ils vont entrer en Eretz Israël avec le handicap des 40 ans de tribulation pendant lesquelles il y a 40 ans d'Avodah Zara qui s'est faite en Eretz Israël sous les Kna'anim. Donc ça, c'est... Ça marque le territoire. Donc, ça a marqué le territoire. Ce territoire, il est imbibé d'Avodah Zara pendant tout ce temps-là, alors que nous, on aurait dû être sur cette terre-là si on n'avait pas eu le problème du veau d'or et des explorateurs. On serait, nous, sur cette terre-là, et on aurait imbibé la terre de Torah plutôt que de la laisser s'imbiber d'Avodah Zara. Donc, effectivement, il faut se qualifier, et les tribulations en question vont les qualifier. Donc, ensuite, bon, il y a les frontières. Évidemment, on doit savoir c'est quoi Eretz Israël, pour des raisons de Gdoucha, etc. Bon, la Torah nous décrit, effectivement, la frontière. Ensuite, il y a les villes des Levim. Donc, c'est quelque chose de particulier, avoir des villes sans territoire. Donc, c'est aussi une autre mentalité. C'est une mentalité de gens qui sont complètement dans l'urbain et pas du tout dans... Ils n'ont pas de relation du tout avec la terre, avec l'agriculture, avec les agriculteurs, etc. Donc c'est particulier, c'est-à-dire que ce sont des gens de la ville, c'est les gens de la ville qui vont s'occuper du Beit HaMikdash. Il manque, d'une certaine façon, il manque, dans le Beit HaMikdash, on pourrait dire il manque un peu de verre, quoi. Il manque d'écologie, quoi. Alors il y a de l'écologie dans les villes, il y a une recherche, il y a ces fameuses ceintures vertes et tout, et il y a plein d'alachot dans la Torah qui sont des alachot qui touchent à l'écologie, bien sûr. Mais, au fond, le fait que ce soit des gens qui ne sont pas des gens de la campagne, en fait, ou des paysanneries, je ne sais pas, qui sont en charge du service d'Hachem. C'est sûr que dans l'étude, il y a un seder qui s'appelle Zraïm qui, justement, s'occupe de traiter tous les problèmes liés à la terre d'Eretz Israël. Toutes les mitzvot qui ont à voir avec la terre d'Eretz Israël. Mais les gens qui s'en occupent sont des gens qui a priori, n'ont pas de contact direct. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la Gemara, elle nous dit que Rav, par exemple, il est allé en stage chez des éleveurs pour connaître exactement les différents moumines des animaux. Les animaux ont des défauts qui les rendent éventuellement impropres à devenir des corbanotes. Mais des fois, ce sont des défauts qui vont passer, des défauts qui sont définitifs. Et pour être capable de faire la différence, savoir exactement qu'est-ce qui est un moum, qu'est-ce qui n'en est pas un, qu'est-ce qui est un moum ouvert, un moum qui va passer, Rav est allé se mettre en stage chez un berger, jusqu'à ce qu'il maîtrise complètement ces questions-là des maladies ou des défauts ou des blessures animales, des animaux. Donc on voit que ils sont allés voir, ils sont allés sur le terrain. Et on voit que c'est les gens de la ville, si on veut, mais dans leur limoud, ils sont allés regarder ce qu'il en était, quoi. Ils sont allés voir dans les champs comment ça pousse, comment, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une greffe, qu'est-ce que c'est, etc. Toutes ces questions-là, dans Kilaïm, etc., dans les mélanges interdits, etc. Tout ça, ils sont allés le voir sur place. Donc, ce sont des gens de la ville, mais pour les besoins de l'étude, ils ont été obligés d'aller y voir de plus près. Et ils sont allés voir.